Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Christine Constant, présidente du Conseil de l'Ordre des chirurgiens dentistes du Bas-Rhin. À propos de la gestion de la crise pendant l'épidémie du Covid-19, Christine Constant, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est mis en place dans les cabinets dentaires dès le début du confinement ?
Alors oui, effectivement, dès le début du confinement, les cabinets dentaires ont été obligés de fermer l'accueil des patients, l'accueil physique des patients. Ils ne pouvaient plus recevoir les patients pour des soins dans leur cabinet, pour plusieurs raisons, pour justement protéger les patients. Et puis, il leur manquait du matériel de protection, en fait, hein, des masques spéciaux, FFP2, etc., et beaucoup de choses. Il y avait une pénurie matérielle. Et donc, les patients qui avaient un problème dentaire à signaler, ils pouvaient joindre le chirurgien dentiste par email ou par téléphone, parler de leurs problèmes, et le chirurgien dentiste trouvait une solution, soit à distance, par une ordonnance qu'il faisait à distance, ou alors il lui trouvait une place dans un cabinet de garde.
Alors justement, il y a eu un service de garde et de pré-régulation chez certains confrères.
Oui, voilà.
Ça tournait ça ou c'était fixe ?
Alors, chaque confrère en fait était pré-régulateur, si vous voulez, dans son cabinet, donc il répondait à ses patients. Et après, effectivement, il y a eu un tour de garde avec des praticiens qui étaient de garde et pour répondre au téléphone pour les urgences, pour soigner les patients dans des cabinets de garde quand vraiment il fallait absolument un soin. En fait, hein, certaines situations d'urgence en dentaire, vous pouvez les régler que par un soin. Hein. Donc ça se passait dans un cabinet de garde.
Donc dans un cabinet qui était équipé avec le matériel adéquat en cette période de crise.
Voilà, c'est-à-dire que le matériel était fourni pour les cabinets de garde, distribué par le Conseil de l'Ordre. Enfin, c'est-à-dire le donnait au Conseil de l'Ordre pour que le Conseil de l'Ordre le distribue dans les cabinets de garde.
Et ça représentait quel pourcentage de cabinets qui fonctionnaient de cette façon-là ?
En fait, on avait possibilité au départ de recevoir 20 patients par jour. Parce que dans une même journée, il fallait prendre plus de temps entre deux patients pour tout le bio-nettoyage du cabinet, etc. Enfin, comme ce qu'on fait maintenant. Donc, on avait très peu de place en cabinet de garde. On avait une vingtaine de places. Mais les praticiens de garde étaient de garde en binôme. Et le matériel est venu assez rapidement à manquer. Et donc, on a eu de l'aide et du soutien à un moment donné par des associations.
Par des associations qui vous ont fourni ce matériel, les visières, les gants, les blouses ?
Voilà. Alors, les gants, non, mais les visières, oui. Les surblouses, elles étaient fournies par l'État, par le stock État, Santé publique France. Les masques FFP2, pareil, fournis par Santé publique France. Disons que les confrères, comme leur cabinet était fermé, ils avaient donné une partie de leurs masques chirurgicaux, etc., dans les hôpitaux, les EHPAD autour d'eux. Et nous avons organisé une collecte avec l'aide d'une association Alpha Omega. C'est une association de chirurgiens dentistes et ils nous ont aidés. Effectivement, très rapidement, ils sont venus vers nous en disant « Comment pouvons-nous vous aider ?» Alors que le Conseil de l'Ordre, en fait, était en charge d'organiser la permanence des soins. Ça nous a beaucoup, beaucoup aidés parce qu'on était... c'était lourd, quoi, du jour au lendemain.
Alors juste pour revenir sur les cabinets dentaires en général, ça représentait un gros manque à gagner, justement, pour ces cabinets.
Ah oui, je pense qu'on peut dire que le chiffre d'affaires s'est retrouvé à zéro dans tous les cabinets. Donc, effectivement, le manque à gagner est important, comme pour d'autres professionnels qui ont été obligés de fermer pour des raisons administratives. Nous, on était obligés de fermer parce que il fallait qu'on puisse soigner les gens dans des conditions très sécurisées. Et ça n'était possible qu'en cabinet de garde. Et c'est pour ça qu'on se limitait au traitement d'urgence uniquement.
Il y a des cabinets aujourd'hui qui sont en grande difficulté et qui vont avoir des difficultés à rouvrir ?
Oui, sans doute. Alors, la plupart des cabinets ont rouvert, hein, mais clairement, je pense que dans tous les cabinets, il y a de grandes difficultés. Il y a de très grandes difficultés par rapport à ce manque à gagner. Et en plus de ça, si vous voulez, les cabinets sont réouverts depuis le 11.
Oui.
Mais, par contre, avec la possibilité de voir nettement moins de patients chaque jour, hein, et avec un surcoût pour chaque rendez-vous, il y a un surcoût en matériel, en équipement, en surblouse, en produits de désinfection.
Oui, donc ce n'est toujours pas l'heure de l'équilibre
pas
financier.
Pas du tout. Et on arrive tout juste à absorber les urgences qui se sont présentées effectivement pendant le confinement, qui se sont présentées depuis, et les patients qui avaient rendez-vous qui avaient rendez-vous pendant le confinement, et les rendez-vous là ont été reportés, donc on les absorbe tout juste là maintenant. Donc effectivement, on est loin de l'équilibre pour le moment, oui.
Alors, la profession dénonce d'avoir été les derniers des professions médicales dans cette crise. Qu'est-ce qu'ils entendent par là, selon vous ?
Financière, on a, comme d'autres professionnels de santé, effectivement, une indemnisation de la part de l'assurance maladie par rapport à la perte d'activité. Ou la baisse d'activité. Là où je dirais que, en tant que professionnel de santé, on est vraiment les derniers, et ça continue d'être des discussions qui sont en cours, c'est qu'un chirurgien dentiste n'a pas droit à la téléconsultation. Alors que finalement, pendant toute la période du confinement, les chirurgiens dentistes dans leur cabinet n'avaient le droit de faire que ça. Uniquement des téléconsultations. Ils ne pouvaient pas recevoir leurs patients même pour une urgence, ils devaient les référer dans le cabinet de garde, et par contre, ils devaient rédiger des ordonnances. Et cette possibilité de faire des téléconsultations n'est ni actée, ni valorisée pour le moment, alors qu'elle a été accordée aux masseurs-kinésithérapeutes, qui sont dans une situation, ils sont pas plus à même que les chirurgiens dentistes de faire des téléconsultations, ni plus ni moins, hein, je veux dire, ils peuvent donner des conseils, montrer des exercices. Nous, c'est pareil, on peut donner des conseils, créer des techniques pour se soulager, des bains de bouche, des choses comme ça, et faire un diagnostic sur la base d'une photo, d'une vidéo, de ce que nous connaissons du patient, tout à fait en même de faire ce qu'on appelle une vraie téléconsultation. Et pour le moment, elle n'est pas du tout... Si on l'a fait, en tout cas, on l'a fait gratuitement.
Et donc, ce sont des choses que vous faites remonter, ça, au niveau gouvernemental, ces
oui.
manques-là ?
Clairement.
Alors, on va parler maintenant, vous en parliez tout à l'heure, de l'association Alpha Omega Alsace,
oui.
l'association des dentistes juifs qui ont
oui.
pris part de façon active à cette gestion de la crise. De quelle façon
oui.
ils se sont impliqués ?
Alors, donc, effectivement, ils sont venus très, très vite vers les conseillers ordinaux en disant, on propose votre... Ils se sont rendus compte qu'on était très, très affairés à essayer d'organiser une prise en charge des urgences. Ils nous ont proposé leur aide. Alors, très rapidement, nous, on s'est rendu compte aussi qu'on manquait de matériel et que ça nous empêchait de prendre beaucoup de patients en urgence. Et on les a chargés d'organiser avec nous une collecte de matériel, de protection, et les chirurgiens dentistes dans leur cabinet qui avaient du matériel, des masques chirurgicaux, des surblouses, pour des interventions qui nécessitent un équipement particulier, etc. Ils en ont fait don au moment de cette collecte. Et Alpha Omega s'est chargé de cette collecte. Ça, c'était la première des choses. Ensuite, une autre chose qui a été également très, très prenante, c'est que juste avant de reprendre dans les jours qui ont précédé, les dentistes, en fait, n'avaient pas possibilité de se fournir auprès de leurs fournisseurs en matériel de protection, ni en masque FFP2, ni en surblouse. La distribution dans les pharmacies ne s'est pas encore assurée. Et donc, les URPS de Grand Est ont tenu à distribuer des kits de matériel de protection pour pouvoir démarrer l'activité le 11 mai. Donc, avec l'aide d'Alpha Omega, des bénévoles d'Alpha Omega, le Conseil de l'Ordre a constitué des kits. On peut même dire que Alpha Omega, avec l'aide de quelques conseillers ordinaux, a constitué ces fameux kits. Et les membres d'Alpha Omega nous ont aidés après. En fait, on a organisé une distribution de ce matériel le 8 mai en gendarmerie pour que les praticiens puissent avoir le premier matériel pour démarrer. Sinon, ils n'auraient pas pu démarrer. Et donc, les bénévoles d'Alpha Omega nous ont aidés.
Encore une question. Est-ce que vos confrères ont été touchés? Est-ce que vous connaissez, vous, des confrères qui ont été touchés par la maladie dû certainement à ce manque de matériel ou d'anticipation avant le confinement? C'est vrai que les mesures n'étaient pas les mêmes.
Alors, c'est-à-dire qu'avant le confinement, en fait, alors, les chirurgiens dentistes ont quand même une grande habitude de gérer le risque infectieux, même en dehors du Covid. Beaucoup de maladies infectieuses qui sont susceptibles de se transmettre. Donc, les chirurgiens dentistes ont l'habitude d'organiser leur protocole de soins, de nettoyage entre deux patients, etc., etc. Donc là, c'est venu s'ajouter à ça. Et effectivement, on a pu se rendre compte à l'occasion d'une campagne de dépistage épidémiologique que les chirurgiens dentistes, par leur exercice, étaient très exposés, effectivement. Mais de par les protections qu'ils mettent en place, ils étaient également moins touchés que, par exemple, les professionnels aidants non médicaux, en fait. Hein, dans cette campagne de testing, on s'est rendu compte que, par exemple, le personnel en EHPAD ou les aides-soignantes ont été nettement plus touchées que les chirurgiens dentistes. Parce que, ou même que les ophtalmos, puisque, par exemple, nous avons l'habitude de travailler avec des lunettes, des masques, même si ce ne sont pas des FFP2, mais il y a au minimum un masque de protection, des gants, etc. Les mesures barrières, on les applique, si vous voulez, effectivement. En général, il y a un flacon de gel hydroalcoolique à l'entrée d'un cabinet dentaire. Enfin, voyez, on a cette habitude-là. Après, il est clair qu'on travaille dans une grande proximité avec les patients et que le virus est contenu dans la salive et que quand on travaille avec la fraise, ça produit un nuage, une nébulisation qui peut contenir potentiellement beaucoup de virus. Alors moins maintenant, puisqu'effectivement apparemment le virus est moins virulent et au niveau des charges virales c'est moins dangereux, mais c'est vrai qu'au départ, je pense qu'il fallait absolument fermer les cabinets quand le virus circulait.
Mais la profession, les dentistes en Alsace ont été relativement épargnés alors.
Du fait de la fermeture des cabinets. Je ne sais pas ce qui se serait passé s'ils avaient travaillé.
Dernière question, Christine. Pendant cette période-là. Christine, oui. Constant, si vous aviez une demande réaliste à faire au gouvernement pour relancer l'activité, ce serait laquelle?
Effectivement, ce serait qu'on ait possibilité de valoriser le matériel et le surcoût. Je pense que, en fait, ça représente par soin nébulisant pratiquement 100 euros, vous voyez, de surcoût. Et l'idéal, ce serait que ce surcoût puisse être facturé aux patients, mais pris en charge par la sécurité sociale. À la fois réaliste et une vision idéale des choses. Vous voyez,
oui.
Le surcoût, il est réel, il est calculable. Hein, on estime effectivement entre 75 et 100 euros parce que les cabinets tournent au ralenti, etc. Et que, effectivement, ce surcoût ne soit pas laissé à la charge des chirurgiens dentistes qui ont déjà consenti un effort important au moment de la mise en place du 100% santé, que des soins qui ont été plafonnés en échange d'autres soins qui ont été revalorisés, mais on n'arrivait de toute manière pas à l'équilibre. Donc, tout ça est venu se greffer sur une situation déjà où le chirurgien dentiste consent beaucoup d'efforts, quoi.
Donc, oui.
Je trouve que ce qui serait réaliste de la part du gouvernement, ce serait de prendre en charge le surcoût des soins, parce qu'effectivement, on a tout à gagner à ce que ces soins soient effectivement réalisés, à ce que les patients retrouvent le chemin du cabinet, qu'ils se fassent soigner. Quand ils se font soigner, dans de très bonnes conditions, très très sécurisées, etc.
Et ça reste un soin de première nécessité.
De première nécessité, totalement. Surtout qu'on sait que dans beaucoup de maladies chroniques, c'est important d'avoir une bonne santé dentaire pour ne pas avoir de retentissement négatif sur, par exemple, du diabète ou des problèmes cardiovasculaires, etc. On sait maintenant l'importance d'être en bonne santé dentaire.
Christine Constant, je rappelle, vous êtes présidente du Conseil de l'Ordre des chirurgiens dentistes du Bas-Rhin. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Bonne continuation pour la suite.
Merci à vous aussi et bravo pour votre émission.